appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix qui vous propose ce nouveau numéro de parole aux auditeurs. Selon les experts, la RDC, avec ses 80 millions d'hectares de terres arables et ses innombrables minerais et métaux précieux, dispose d'un potentiel énorme pour devenir l'un des principaux pays exportateurs du continent et un moteur de la croissance africaine. Et depuis des décennies, le commerce extérieur de la RDC reste dominé par les secteurs miniers au détriment du secteur agricole. L'histoire renseigne que depuis l'indépendance jusqu'au tour des années 1980, le commerce extérieur s'est essentiellement focalisé sur l'exportation des produits miniers, notamment les cuivres. Et bien des années plus tard, de 2015 à 2020, les minerais tels que le cobalt, les cuivres et leurs sous-produits ont représenté ensemble 95% des exportations totales. Pour diversifier son économie et améliorer sa position au niveau de l'économie mondiale, la RDC est membre de la SLECAF et a adhéré à plusieurs communautés régionales et sous-régionales. Que pensez-vous? Que pensez-vous de l'état des lieux du commerce extérieur en RDC 64 ans pour l'indépendance et que faire pour renforcer les échanges commerciaux entre la RDC et les autres pays et aussi promouvoir les commerces internes? Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs pour aussi intervenir en direct en composant les 099-716-80-79. Debs Vita est à la mise en œuvre de ce magazine de Blechine Danier, Julie Feza Bongonda sur la réalisation de la coordination au micro, c'est Marcel Ngomombala, toutes et à tous et sans condition d'écoute de ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent radiocapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion.
Bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. On va parler de l'état des lieux du commerce extérieur en RDC. 64 ans après l'indépendance, mais aussi de ce qu'il faut faire pour renforcer les commerces ou les échanges commerciaux entre la RDC et les autres pays, mais aussi promouvoir les commerces internes. Pour aborder cette question, nous aurons le plaisir d'avoir en ligne le ministre du commerce extérieur, Julien Palouc. Il était question qu'il soit avec nous dans ces studios, mais pour des raisons indépendantes de notre volonté. Il sera au téléphone. Nous disons déjà merci à tous ceux qui ont réagi par rapport à ces sujets sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Nous avons par exemple cette réaction de Steve Bayoguere qui nous écrit ceci: placer la RDC parmi les puissances mondiales, c'est de la pire moquerie. Qu'est-ce que le peuple en bénéficie? Je suis de ceux qui pensent que la RDC fait partie des pays le plus pauvre au monde. Dieu nous a donné tout, mais on a préféré enrichir les pays étrangers au détriment du nôtre. Voilà, ça c'est une réaction du Steve Bayoguere. Une autre réaction, c'est celle d'Achille Kassongo depuis Chypre. Les programmes de développement du 145 territoire devraient plus prioriser la construction des routes pour permettre la connectivité du pays. L'État congolais devait aussi s'engager d'améliorer les chemins de fer, la voie fluviale et maritime pour faciliter les échanges ou encore les transports des marchandises d'une ville à une autre. Une autre réaction, c'est Ezekiel qui nous écrit: la solution pour ce point, c'est de construire les routes interrégionales pour une connectivité fluide et échange commercial interprovincial, et les taux de dollars et les prix de la nourriture diminuera et la vie sera facile. Voilà. Beaucoup de réactions. Il y a également celle de Ken Kalumbi qui nous écrit: comme à son habitude, Julien Palouc viendra faire un discours que plusieurs Congolais admirent écouter et c'est la faisabilité qui va poser le problème. Voilà, ça se direction sur la page Facebook Parole aux auditeurs. On me fait signe que le ministre du Commerce extérieur, Julien Palouc, est en ligne. Bonjour, monsieur le ministre.
Oui, bonjour.
Voilà, Merci de nous rejoindre dans ce numéro du Parole aux auditeurs où il est question de faire un état des lieux du commerce intérieur à du commerce extérieur en RDC, 64 ans après l'indépendance, mais aussi de parler de comment renforcer les échanges commerciaux entre la RDC et les autres pays, mais aussi comment promouvoir le commerce intérieur. D'entrée de jeu, cette question, monsieur le ministre, si il vous était demandé de faire un état des lieux du commerce extérieur de la RDC, 64 ans après à l'indépendance, qu'est-ce que vous aurez à nous dire?
Oui, merci beaucoup. Je voudrais d'abord commencer par adresser un message de solidarité à la population de l'Est qui passe des moments difficiles en ce moment. Mais répondant à votre question, l'état des lieux du commerce extérieur aujourd'hui est un peu dans un système que je peux qualifier de mitigé. Parce que lorsque on mesure la nature du commerce, c'est lorsqu'on voit la différence entre les exportations et les importations. Et là, en langage simple, lorsqu'on a le volume des exportations qui est supérieur au volume des importations, on dit que le pays a une balance commerciale excédentaire, c'est-à-dire en exportant beaucoup, le pays emmagasine beaucoup de devises qu'il n'a dépense lors des achats à l'extérieur. Mais il est apparu que depuis les années 60, effectivement, nous avions quand même un régime économique basé sur quelques produits d'exportation, c'est notamment l'huile de palme, le coton, le café, les thés, les veillards, vous vous rappelez du caoutchouc de l'époque, qui n'ont pas tiré en fait notre économie vers le haut. Parce que tout simplement, on s'est beaucoup plus penché plutôt vers le secteur minier, à savoir le cuivre, les diamants, la cassiterite, les zinc, les manganèses. Vous vous rappelez des Kissengue manganèses de tous les temps. Et alors, lorsqu'on évalue effectivement depuis les années 60 à aujourd'hui, on trouve que les produits miniers représentent entre 70 et 80% de la valeur des exportations congolaises. Ce qui a fait que on s'est beaucoup plus basé sur le secteur minier que sur le secteur agricole. Or, c'est le secteur agricole qui devait effectivement attirer notre économie. Et lorsqu'on cherche les éléments explicatifs qui montrent pourquoi finalement le commerce extérieur de la RDC n'a pas été florissant, il y a trois ou quatre éléments qui l'expliquent. Le premier élément, c'est la zaïrianisation. Pour les jeunes, ils ne connaissent pas c'est quoi. C'est en fait une politique du président Mobutu à l'époque qui avait privatisé toutes les entreprises, soit à son nom, soit au nom de ses proches. On a nationalisé toutes les propriétés foncières et il y a eu de nouveaux acquéreurs qui sont des Zaïrois, des Congolais à l'époque, qui n'avaient aucune expérience de gestion et qui finalement ont détruit tout l'écosystème économique. Ils se sont presque satisfaits de l'opulence de la richesse qu'ils ont acquise de la part des anciens propriétaires. Ce qui a fait que la zaïrianisation a été une politique qui a enfoncé en fait la politique commerciale et d'exportation de la RDC. Le deuxième élément que je peux signaler dans relevant de l'histoire, c'est la dictature. Avec la dictature, il y a eu persécution de beaucoup de Congolais, beaucoup de fuites de cerveau à l'extérieur. Troisième élément, c'est les pillages. Vers les années 90, 91, 92, ici à Kinshasa, tout le monde se rappelle. Quatrième élément, ce sont les guerres et rébellions que nous avons connues depuis 30 ans. Ces éléments d'histoire-là nous montrent comment, malgré la stratégie d'exportation que nous avons acquise depuis les années 60, eh bien, nous avons sombré et finalement, le pays n'exporte plus. Aujourd'hui, nous sommes trop dépendants des importations, ce qui fait que la structure de notre économie ne permet pas le relèvement économique. Voilà brièvement l'état dans lequel se trouve le commerce extérieur, qui se traduit par le volume des exportations par rapport aux importations.
Alors justement, au fil des années, pour diversifier son économie, améliorer sa position au niveau de l'économie mondiale, et la RDC, par exemple, membre de la ZLECAF, la zone africaine des libre-échanges. Alors, si il faut parler de cette adhésion de la RDC à la ZLECAF, beaucoup pensent qu'elle ne va pas servir simplement parce qu'il y a manque de production interne. Qu'est-ce que vous dites à ce sujet en tant que ministre du Commerce extérieur?
Effectivement, maintenant, la question c'est de savoir comment la RDC se prépare à, à cette intégration économique africaine qui est la zone de libre-échange continentale. Je dois vous dire que, avant moi, mon prédécesseur a laissé un outil important de la stratégie nationale de promotion des exportations et de diversification des marchés. Ça s'appelle SPED. C'est une stratégie qui définit les filières qui se considèrent comme prioritaires pour devoir constituer les éléments de base pour relancer les exportations en RDC. Il y a 62 produits, disons 62 filières prioritaires que la RDC a choisi en fonction des marchés existants. Vous savez, il y a 4 types ou 5 marchés existants. Le premier marché, c'est le marché congolais. Nous avons 100 millions d'habitants, donc 100 millions de consommateurs. Le deuxième marché, c'est le marché africain. Nous avons 1,3 milliard d'Africains. Le troisième marché, c'est le marché chinois. Ils sont 1,4 milliard. Ça comptait les marchés américains, les marchés européens. Et donc, la stratégie nationale de promotion des exportations a identifié 62 produits qui vont désormais constituer les produits d'exportation dans lesquels nous invitons et les Congolais et tous les partenaires de s'y investir parce qu'il y a une demande mondiale qui a besoin de ces produits, mais seule la RDC est à même de devoir les produire. Vous vous rappelez que tous les discours qui fusent de partout disent que nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. Il suffit de prendre peut-être le tiers de ces 80 millions, soit 20 à 25 millions d'hectares. On les considère comme un pas important de l'agriculture. On s'y investit et si on cultive 20 millions d'hectares en République démocratique du Congo, en diversifiant notre économie par les 62 produits, nous allons conquérir et tous les marchés que je viens de citer, y compris les marchés congolais. Et c'est donc cette stratégie que nous allons essayer un peu de mettre en place pour permettre à la RDC de recouvrer sa santé d'antan pour devenir un véritable pays exportateur.
Monsieur le ministre, il y a également cette autre question qui intéresse les Congolais, c'est la RDC est aussi bénéficiaire de la loi AGOA, cette loi par laquelle les USA, donc les États-Unis, accordent à quelques pays africains d'exporter sans frais de douane s'ils sont territoire. Est-ce que au niveau de la RDC, on peut avoir une idée sur le produit que la RDC exporte vers les États-Unis?
Oui, effectivement, la AGOA, c'est une loi américaine qui permet à ce que les produits de l'Afrique subsaharienne accèdent au marché américain sans payer les frais de douane. C'est donc une manière pour les Américains d'inciter les Africains à s'investir dans la production intérieure pour accroître un peu la capacité de faire face à leurs problèmes. Et donc, à la date d'aujourd'hui, nous avons quelques produits qui sont exportés vers les États-Unis, notamment les cafés. Et nous sommes en train d'examiner la possibilité pour le cacao aussi d'y aller. Voilà pourquoi nous sommes en train de, dans notre feuille de route au ministère du Commerce extérieur, nous sommes en train de vouloir moderniser d'abord l'Office congolais de contrôle, qui est l'office du gouvernement à même de contrôler la qualité des produits qui sortent de la RDC vers l'extérieur. Parce que même si nous produisons un milliard de tonnes, nous ne saurons pas exporter nos produits s'ils ne respectent pas un certain nombre de normes. Quand j'étais au ministère de l'Industrie, effectivement, j'avais la mission d'adopter les normes qu'il faut pour que les produits congolais soient consommés à l'extérieur. J'ai dû faire adopter plus de 2000 normes lorsque j'étais au ministère de l'Industrie. Maintenant que je suis au ministère du Commerce extérieur, c'est là où nous allons maintenant faire appliquer ces normes pour que l'office qui est en charge de l'application de ces normes, qui s'appelle OCC, soit modernisé. Et c'est la raison pour laquelle nous devons construire des laboratoires un peu partout pour que les produits qui sortent de la RDC, qui sont estampillés Made in Congo, accèdent sur les marchés américains, les marchés européens, les marchés chinois et les marchés africains sans risque d'être refusés au motif qu'ils ne respectent pas et la qualité et les normes requises, celles qu'on appelle normes ISO, etc. Donc il y a une panoplie de mesures que nous allons essayer un peu de mettre en place pour rendre nos produits consommables et compétitif sur les marchés internationaux.
Alors, s'il faut parler du commerce interne, monsieur le ministre, et que faut-il faire à ce jour pour promouvoir le commerce interne en RDC?
Le commerce interne en RDC passe par l'amélioration de quelques infrastructures de base. Et c'est le sens, effectivement, du plan national stratégique de développement, où pour accroître le commerce interne, le premier élément qu'il faut, ce sont les infrastructures routières que nous devons construire, les infrastructures ferroviaires, les infrastructures énergétiques, parce que ce sont ces infrastructures qui sont en fait les éléments déclencheurs d'un nouveau système économique en interne pour permettre la fluidité de nos produits, pour permettre la transformation de nos produits, pour que nos produits quittent les lieux de leur centre de production vers leur centre de consommation. Donc nous devons lier la stratégie du commerce en interne avec la stratégie de 3 ou 4 ministères, à savoir les ministères des infrastructures, les ministères du développement rural, les ministères de l'énergie, les ministères de l'industrie. Ce sont ces ministères-là, couplés avec celui du commerce extérieur, qui vont mettre en place la stratégie de devoir diversifier l'économie et permettre qu'il y ait un commerce intra-congolais qui facilite à ce que, finalement, notre économie puisse être florissante. Mais, parmi les autres éléments qui vont favoriser effectivement le commerce en interne, c'est notre système fiscal. Nous sommes sur un chantier important. Mon prédécesseur, d'ailleurs, l'avait déjà commencé. La suppression des taxes toxiques qui rendent en fait les produits congolais moins compétitifs. Il a été constaté que lorsqu'un opérateur économique s'installe en RDC, dans les mois qui suivent ou dans l'année qui suit, il est obligé soit de fermer son entreprise, tout simplement parce qu'il y a plus de 150 taxes auxquelles il fait face. Alors, mon prédécesseur avait déjà commencé, il avait présenté un dossier au Conseil des ministres pour la suppression des 19 taxes et l'allègement d'autres. Nous allons poursuivre cette démarche pour permettre que, finalement, le système fiscal de la RDC ne constitue pas un goulot d'étranglement pour l'émergence du commerce congolais, et en interne, et en externe.
Monsieur le ministre, on espère bien que ça marchera, parce que ça fait déjà un certain nombre d'années que les gens ne cessent de dénoncer le système fiscal congolais qui est très très contraignant, et cette fois-ci on espère bien que cela marchera. Voilà, on vous garde en ligne, monsieur le ministre, on va ouvrir le standard pour permettre aux auditeurs de réagir par rapport à ce sujet. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix, c'est votre magazine d'échange citoyen. Parole aux auditeurs, nous en parlons aujourd'hui du commerce extérieur en RDC 60 4 ans pour l'indépendance, mais aussi de ce qu'il faut faire pour renforcer les échanges commerciaux entre la RDC et les autres pays et aussi promouvoir les commerces internés. Pour en parler, notre invité, c'est Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur. Si vous voulez intervenir en direct, composez les 099-706-80-79.
Parole aux auditeurs.
Docteur Michael Bolingo nous appelle depuis Goma. Bonjour.
Oui, bonjour, très cher Radio Okapi. Je salue l'invité, notre ancien gouverneur, qui nous devons beaucoup de respect. Alors, il a souligné quelque chose que je pouvais aussi dire par rapport aux infrastructures routières. Alors, ma question est de savoir, je voudrais lui demander, qu'est-ce que, lui, comme un membre du gouvernement, de la législature passée, qu'est-ce qui bloque qu'il n'y ait pas vraiment des routes dans notre pays? Il peut nous dire un peu, parce que nous savons nous payer des taxes. Il y a beaucoup de Congolais qui adhèrent quand même à des taxes, mais on ne parvient pas à comprendre qu'est-ce qui bloque les choses. Mais aussi, une autre de mes préoccupations était de savoir qu'est-ce que l'État pense par rapport aux accords que la RDC a récemment signés avec l'EAC. Est-ce que réellement, vu que c'est une organisation qui concerne le commerce extérieur, est-ce que nous y avons vraiment un avantage? Parce que nous, on n'est pas en train de le sentir, surtout nous qui vivons ici à l'Est. Vous verrez peut-être certains produits, quand vous êtes ici au Rwanda à Gisenyi, les mêmes produits, mais un prix tellement différent. Qu'est-ce qui est à la base de tout ça? On voudrait quand même qu'on puisse palper la vérité des choses, et parce qu'on sait que Julien Paluku, c'est quelqu'un quand même qui s'efforce, on l'a constaté au ministère de l'Industrie, et nous espérons que peut-être cette fois-ci, il y aura quelque chose qui sera donc qui va faciliter les Congolais, surtout nous qui vivons à l'Est. Mais aussi, nous insistons, nous avons beaucoup de produits en RDC. L'État s'est plus concentré dans le secteur minier, oublié qu'il y a le secteur agricole. Récemment, il a été en mission avec le ministre de l'économie, Vital Kamerhe. Ils sont partis, je ne sais pas si encore à Lubumbashi, passa par la Zambie pour aller négocier qui est baisse des prix de la farine. Est-ce que nous n'allons plus arriver à de tels problèmes encore, parce qu'on suppose qu'ils ne sont pas partis juste pour soigner les symptômes, mais plutôt soigner la cause. Voilà un peu ce que j'avais comme préoccupation. Mais nous saluons la thématique d'aujourd'hui. Merci. J'attends les réponses à mes préoccupations.
Merci, docteur Michael Bolingo, depuis Goma. Vous avez parlé de l'EAC, mais il n'y a pas que l'EAC. La RDC a également adhéré à d'autres organisations régionales et sous-régionales. Il y a le marché commun de l'Afrique orientale australe. Il y a également la communauté de développement de l'Afrique australe SADC, mais aussi la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC. Beaucoup de gens se posent justement des questions de savoir à quoi cela profite à la RDC sur le économique, toutes ces additions à différentes organisations régionales et sous-régionales. Le ministre Julien Paluku certainement répondra à toutes ces préoccupations. Donc, merci à vous, docteur Michael Bolingo, d'avoir appelé depuis Goma. Direction sur la page Facebook par auditeur que je m'en vais lire. En République démocratique du Congo, le commerce extérieur est largement dominé par les exportations minières, en particulier les cuivres, les cobalt. Pour diversifier l'économie et stimuler les échanges commerciaux, il est essentiel de développer les secteurs agricoles et d'autres secteurs économiques. Cela nécessite des investissements dans l'infrastructure, la technologie, la formation des travailleurs. Il est également important de promouvoir les commerces internes en simplifiant les procédures douanières, en soutenant l'entrepreneuriat local et en renforçant les capacités des secteurs économiques locaux. La coopération régionale et sous-régionale, ainsi que l'amélioration de la gouvernance économique et la lutte contre la corruption sont également essentielles pour favoriser le développement du commerce à RDC. Voilà, ça c'est une réaction sur la page Facebook Paroles aux auditeurs. Avant de revenir au standard, on donne le temps à monsieur le ministre Julien Paluku d'y réagir par rapport à ses préoccupations du docteur Michael Bolingo qui nous appelait depuis Goma. Monsieur le ministre, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Je voudrais saluer docteur Bolingo depuis Goma, que je félicite pour la clarté de ses questions. Qu'est-ce qui bloque en fait la situation économique de la RDC? Je vais être beaucoup plus large. En fait, les pays ne se développent pas par les ressources du budget. Le budget de 10 milliards, il était à 4 milliards, aujourd'hui on parle de 16 milliards. C'est pas ça qui va développer la République démocratique du Congo, parce que les besoins du développement de la RDC sont estimés à des centaines de milliards. J'avais moi-même présenté à l'époque le plan directeur de l'industrialisation qui se chiffre à 58 milliards. Alors, quel est le problème que nous avons en RDC? C'est l'absence des banques de développement ou des banques d'investissement. En fait, d'autres pays, lorsqu'ils ont identifié le problème de mal développement, ce qu'ils ont créé, ils ont créé des banques de développement. Parce que les banques privées que nous avons ne peuvent pas être les leviers du développement économique de la RDC. Avec des taux de 19, 18, 20, 25%, aucun opérateur économique ne peut investir à long terme. Parce que lorsque vous sollicitez un crédit dans une banque privée ici, on vous dit, bon, vous ne pouvez pas demander un crédit de plus de 3 ans ou de 4 ans. Et le taux est de 20% ou 18%. C'est-à-dire qu'avant même que vous ne commenciez à produire, vous devez commencer à rembourser déjà les crédits que vous avez pris. Donc, la plus grande stratégie aujourd'hui à faire, c'est de créer des banques d'État. C'est-à-dire l'État lui-même, il injecte des millions de dollars dans une banque, il fait appel à des investisseurs privés pour que finalement, ce soit ces banques qui financent les infrastructures, qui finance le développement économique sur le long terme avec des crédits à taux de 2%, de 1% sur 15 ans, sur 20 ans. C'est comme ça que d'autres États se sont développés. Et je me rappelle, lorsque j'étais au ministère de l'Industrie, j'ai piloté effectivement la création de la première banque d'investissement en RDC. Le dossier a été présenté au Conseil des ministres. Il a été versé pour compétence au ministère des Finances. Donc si ce dossier évolue,
apparemment, il y a quelques soucis avec la ligne.
Infrastructure routière, crise de... Allô?
Mais vous êtes, il y a une coupure, mais apparemment c'est bon. Maintenant, vous êtes en ligne, monsieur le ministre. Vous avez dit, vous avez mis ce dossier sur la table. Si ce dossier arrivait pour mettre en place cette banque de développement, ça serait très très bonne chose.
Oui, ça serait une très très bonne chose parce que ce sont les seules banques qui peuvent financer des projets avec des taux d'intérêt très faibles parce que l'État n'est pas commerçant. Et je me rappelle que nous avions proposé que l'État donne les fonds de démarrage de 50 millions de dollars. Si l'État donne 50 millions de dollars, eh bien, il y a des partenaires étrangers qui sont prêts à venir investir à cette banque d'investissement. Et là, je voudrais que l'État congolais, je vais le proposer au Conseil des ministres, puisse changer la stratégie de sa politique avec les institutions de Bretton Woods, à savoir la Banque mondiale et les Fonds monétaires internationaux. Pour moi, je considère que nous ne devons pas continuer à avoir des crédits au niveau de la Banque mondiale qui sont affectés dans des dépenses sociales. C'est-à-dire, on finance les dépenses sociales qui ne sont pas du secteur productif et qui finalement endettent davantage les pays sans que les pays structurent son économie ou financent les secteurs qui peuvent être des leviers de l'essor économique. Et donc, nous allons présenter au gouvernement cette stratégie-là pour que les banques de développement soient créées. Vous vous rappelez, il y avait à l'époque la banque de crédit agricole, la banque du commerce extérieur, pour que les gens qui s'intéressent aux produits d'exportation puissent recevoir des financements d'une banque à des taux d'intérêt très faibles, mais sur des périodes très longues. Je vous donne un exemple. Vous voulez, par exemple, aujourd'hui, vous investir dans la production du cacao. Si vous faites si vous plantez aujourd'hui les plantes du cacao, il vous faut 3 ans pour récolter. Si vous adressez à une banque commerciale ici, les banques privées, aucun crédit ne dépasse 3 ans. Donc, avant même que vous ne commenciez à produire le cacao, vous devez déjà avoir remboursé le crédit de la banque. Par contre, si vous prenez un crédit dans une banque de développement, on vous donne 15 ans de remboursement avec 5 ans de période de grâce. C'est-à-dire, pendant les 5 ans, vous n'avez pas commencé à rembourser parce que vous devez d'abord commencer par investir et avoir la première production. Donc, ce sont les banques d'investissement, en fait, qui vont nous aider à relever les défis. Alors, devant l'EAC, la SADC, la COMESA, la CEAC, qu'est-ce que nous faisons? Effectivement, la stratégie que nous avons trouvée au niveau du ministère du commerce extérieur, que nous allons poursuivre, c'est de devoir identifier les secteurs prioritaires, les filières prioritaires qui constituent les produits de grande consommation, et c'est dans ces secteurs où nous allons inciter les Congolais à investir. Beaucoup de Congolais sont dans l'immobilier, beaucoup de Congolais sont allés cacher leurs moyens à l'extérieur. Maintenant, c'est l'occasion pour les Congolais et aussi de changer le paradigme de gestion de leurs ressources. Si vous voulez que les pays soient développés, eh bien, au lieu d'amener vos 20 millions dans un paradis fiscal à l'extérieur, vos 50 millions dans un autre paradis fiscal à l'extérieur, c'est le temps aujourd'hui de faire un appel de fonds au ministère du Commerce extérieur pour soit vous associer à créer des banques de développement, soit vous associez à investir dans les secteurs pour lesquels nous avons déjà identifié les marchés. J'ai fini par un exemple.
Oui.
Les Chinois ne consommaient pas des avocats. Aujourd'hui, ils en consomment maintenant. Ils sont 1,4 milliard. Imaginez-vous, si chaque Chinois consomme un avocat par an, ça fait une demande d'avocat de 1,4 milliard d'avocats chaque année. Si donc quelqu'un, au lieu d'aller dans les mines, dans les Katanga, trouvait des espaces où il cultive des avocatiers, eh bien, il a un marché chinois disponible de plus d'un milliard d'avocats à consommer chaque année. C'est des millions,
mais
et des millions
ministre,
de dollars qu'on va gagner.
Mais ce ministre, c'est justement ça qu'on demande au gouvernement, de voir dans quelle mesure maintenant changer un peu la façon de faire les choses. On a beaucoup priorisé les secteurs miniers pour nos exportations. Maintenant, voir dans quelle mesure vraiment booster les secteurs agricoles, essayer de voir comment attirer les investissements dans les secteurs agricoles de manière assez comme le font. Vous donnez l'exemple de Chinois avec les avocats, que la RDC puisse également être un véritable exportateur de produits agricoles.
C'est pourquoi je vous ai parlé de la stratégie nationale, la promotion des exportations. Le gouvernement a créé ce qu'on appelle ANAPEX. L'ANAPEX, c'est l'Agence nationale de promotion des exportations. Son rôle, c'est d'identifier effectivement les différents marchés à travers le monde et d'inciter maintenant les Congolais, au regard de ces marchés, à s'investir dans les filières prioritaires. Donc, mon rôle ici, en tant que ministre aujourd'hui du commerce extérieur, ça sera effectivement de démontrer à tous les Congolais qu'il est maintenant possible d'investir dans l'agriculture et de se passer même des mines et de relever l'économie. J'ai donné un exemple. Si nous prenons 20 millions d'hectares parmi les 80 millions disponibles, vous savez que chaque hectare engage 6 personnes au minimum. Alors, si nous prenons 20 millions d'hectares seulement à cultiver, nous les Congolais, fois 6 personnes, ça fait 120 millions d'emplois qui sont créés tout de suite. Et donc, on va même importer la main-d'œuvre étrangère pour venir effectivement travailler dans nos plantations. Ça a été le cas lorsque le président Mobutu a fait la zaïrianisation en privatisant les entreprises publiques. Il n'y avait pas autant de chômage qu'aujourd'hui. Donc, le paradigme dans lequel on nous a versé par le système colonial nous a dévié de la vraie trajectoire que nous devrions emprunter, à savoir la promotion du secteur agricole qui devrait être le levier du développement de la République démocratique du Congo. Et nous, au niveau du ministère du Commerce extérieur, à travers l'Agence nationale de promotion des exportations, c'est le travail que nous allons faire pour inciter davantage les Congolais à s'investir dans ce secteur pour diminuer la pression fiscale qui pèse sur les opérateurs économiques et permettre que l'environnement soit sain, parce que nous avons aussi en charge les guichets uniques du commerce extérieur. C'est des éléments sur lesquels nous allons appuyer notre politique lorsque nous avons défini notre feuille de route.
Alors, on revient à vous, monsieur le ministre. On va encore retourner au standard pour accorder la parole à l'honorable Honoré Djoukaï qui nous appelle depuis Kinshasa. Bonjour, honorable Honoré Djoukaï.
Bonjour, Marcel Ngombo. Bonjour à l'invité. Je salue monsieur le ministre Julien Paluku en passant, l'ancien chevronné. Je salue d'abord son point de vue. Je suis de même que lui. Bon, évidemment, vous savez, le problème dont nous sommes en train de co-débattre maintenant, c'est un problème dont nous devons mettre en pratique pour que d'autres changent dans notre pays. Vous savez que notre pays, la République démocratique du Congo, ne doit pas être toujours un pays à problème, où un pays, le tout ne marche pas, où le tout ne marche que lorsqu'on fait des débats dans des radios. Donc nous devons chercher à changer le pays. Comme je l'ai toujours dit, que nous devons avoir un Congo du beau, un Congo meilleur, un Congo de la métrographie. Et c'est au gouvernement actuel, le gouvernement en place, de nous aider le pays à avoir son décollage. Parce que je crois qu'avec le gouvernement passé, il y avait eu d'autres choses qui ont bougé ou qui ont marché, mais d'autres n'ont pas encore marché. Je crois qu'on a eu à changer à permettre d'autres ministres sortants du gouvernement Samalou Kondé. Il se retrouve maintenant encore dans le gouvernement de madame Judith Tsumwina Tuluka. C'est pour que ceux qui n'avaient pas marché avec leur gouvernement passé, avec le nouveau gouvernement, que ça puisse marcher. Donc, ils doivent être là pour servir le pays et non se servir eux-mêmes. Parce que le pays a besoin déjà compétents, de gens qui ont des expériences professionnelles. Comme madame la première ministre l'avait dit, dès que son gouvernement ne sort pas. Alors, évidemment, nous sommes en à faire un pas, de faire des concurrences avec d'autres pays.
Voilà, vous si savez, je vous comprends si vous bien, honorable, on attend de voir le gouvernement de Judith Tsumwina sur le terrain. Oui. Non, parce que il faut que honorable, s'il vous plaît, honorable, c'est moi qui modère l'émission. Il faut que j'avance. Vous avez commencé à répéter les mêmes choses. Il faut qu'on avance. On est aujourd'hui dans les commerces extérieurs. Parlez-nous du commerce extérieur. On reste dans ça et non parler encore du gouvernement. Là, on n'avance pas. On en a déjà longtemps parlé. Les gouvernements, là, on est sur le commerce extérieur, s'il vous plaît.
Allez-y. Monsieur Marcel, Monsieur Marcel, quand nous parlons du gouvernement, de commerce extérieur, oui. Nous voyons il y a un ministre de commerce extérieur.
Qui est notre invité? Allez-y. Là,
comment les commerces doivent bouger dans le pays?
Mais justement, parler de ce qu'il faut faire.
C'est cette chose qui n'a pas marché dans son secteur pour que ça puisse marcher, monsieur Marcel.
Alors, dites exactement qu'est-ce qui n'a pas marché.
C'est pour que l'on donne au point de vue que la population nous écoute.
En restant sur le sujet, s'il vous plaît, Nora, il faut qu'on avance. Dites ce qui n'a pas marché par rapport à ce qu'il a dit sur le commerce extérieur et ce qu'il faut faire pour que ça avance plutôt que de revenir par rapport aux personnes qui ont été nommées.
Mais ce que moi je dis, c'est quoi?
Oui.
Je venais à peine de le dire qu'avec le régime passé, dans le secteur de commerce extérieur, ça n'a pas marché. Mais nous avons vu le même ministre revenir. C'est comme si ça a été un pouvoir coutumier ou un pouvoir héréditaire dont la même personne.
Voilà, mais on n'est plus dans le sujet. Désolé, honorable je dois poursuivre avec les autres, on n'est plus dans le sujet. Il faut qu'on ait de l'avance. C'est une émission d'échange avec les auditeurs sur des sujets qu'on aborde. Il faut qu'on aille de l'avant de manière à ce que les décideurs puissent aussi apprendre quelque chose au cours de cette émission et puis pas rester toujours sur la même rhétorique. Merci, honorable Honoré Djoukaï, d'avoir appelé depuis Kinshasa. Mons, ici, moi, vous êtes Bukavu, j'imagine. Alors, Amos, bonjour. Restez sur le sujet par rapport au commerce extérieur. On vous écoute, Amos, ici, moi, depuis Bukavu.
Bonjour Marcel, bonjour à tous les auditrices et auditeurs de la radio Okapi, bonjour à l'invité, le ministre du commerce extérieur, Julien Palou, que je salue en passant.
On vous écoute, vous avez la parole.
Merci bien. Je tiens d'abord à saluer ce sujet choisi par la radio Okapi, par rapport au commerce extérieur, surtout des non-minéraux. Mais moi, ce que je dois dire, c'est que jusque-là, pour ce qui est des minéraux, la RDC reste et continue à faire le dindo de la farce. Depuis que j'étais à l'école primaire, on nous disait nous sommes les premiers pays producteurs de tels minéraux, cobalt, cuivre, or, beaucoup de minéraux là. Mais si vous essayez de voir l'impact de ces minéraux exploités dans notre pays et exportés vers l'étranger, surtout le plat, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun impact, Marcel. Partout, même dans les zones où on exploite ces minéraux. Nous qui vivons au Sud Kivu, chaque jour, nous dénonçons l'exploitation illégale des minéraux. Il faut voir comment les Chinois sont en train de ravager et détruire les champs de paisibles citoyens à Fizi, à Mwenga, à Shabunda et une partie du territoire de Walungu. On se pose souvent les questions, d'où viennent ces Chinois ? Et souvent sécurisé par les militaires. On cesse de dire que actuellement que ça serait une affaire de la présidence. Mais je pense que comme on l'a dit, nous devrions nous imposer par rapport à nos minéraux. Et les pays qui profitent de nos minéraux devraient nous respecter, surtout à nous aider à avoir la paix au pays. Mais les mêmes pays qui profitent de nos minéraux, ce sont eux qui soutiennent les pays qui nous agressent, d'une manière ou d'une autre. Alors comment, qu'est-ce que nous serons en train de dire du commerce extérieur dans notre pays, au moment où les seuls produits que nous exportons, au lieu que ça nous avantage en termes de la paix et du développement, ça constitue pour nous un problème, surtout l'insécurité. Nos frères continuent à être égorgés aujourd'hui comme des cochons, des cobayes. Maintenant, quelle est l'importance du commerce extérieur pour nous? Je ne vois rien.
Voilà, merci.
Rien du tout. Heureusement, le ministre est au studio.
Oui.
Qu'il nous aide, en quoi ça nous aide? Qu'il nous explique valablement. Nous ne devons pas être en train de suivre des théories qui ne nous aident à rien.
Voilà, parce que pour vous, Amos Bissouma, pour vous, après autant d'années où la RDC exporte ses produits miniers, le pays n'a rien gagné par rapport à son développement et à l'amélioration des conditions de vie de sa population, mais vous pensez également que ces minéraux posent problème à la RDC simplement parce qu'il y a ceux qui exploitent ces minéraux et à qui on profite pour exploiter ceux qui nous agressent. Voilà, merci Amos Bissouma d'avoir appelé depuis Bukavu. Jérémy Mamba, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour Jérémy.
Oui, bonjour Monsieur Marcel. Bonjour également à l'invité. Moi, je dis que nous sommes en train de souffrir de notre propre souffrance parce que moi, je me dis que les jours où les politiques congolais, là, je voudrais dire les décideurs congolais prendront les choses à bras le corps en impulsant les choses, je pense que notre pays pourra décoller. Parce que moi, je me dis que ça faisait longtemps, d'ailleurs, lorsqu'on a été des petits-enfants, nos parents qui travaillaient à Kamoto, à la Gécamine, et vous savez, et la production était toujours au-delà des attentes, et vous voyez que certaines choses semblaient peut-être, moi je parle peut-être de la Gécamine, vous allez voir que les enfants même de la Gécamine étaient très bien encadrés, y compris la Gécamine elle-même. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de minéraux, plus que même dans l'État. On nous disait toujours que l'Oasis seule, voilà, là-bas seule, pouvait suffire tout le pays. Mais aujourd'hui, nous en avons assez, à l'Est. Nous avons partout là-bas, que ce soit dans les Kassai, partout nous avons des minéraux. Mais paradoxalement, nous approvisionnons davantage. Et moi, je me dis que nous avons tout tenté. Nous avons tout essayé, ça n'a pas marché. Nous devons nous tourner vers... Nous sommes un pays solution sur le plan mondial.
mais nous sommes très pauvres du point de vue, même en Afrique, nous qui devrions être l'exemplaire. La RDC pouvait être un pays solution d'abord, à partir de l'Afrique et jusque dans le monde entier. Mais malheureusement, les choses ont fait que nous touchons. Mais nous avons des terres. Nous devons maintenant nous tourner, nous focaliser aujourd'hui vers l'agriculture, dans les secteurs agricoles. Parce que nous voyons bien qu'avec les minerais, tantôt vous allez entendre que non, il y a baisse sur le plan mondial, le commerce ne produit pas, et avec notre économie qui est tout le temps extravertie, nous sommes en train de reculer et nous sommes à la traîne. Alors moi je préfère qu'on puisse exploiter, là je parle bien avec les députés nationaux, je parle bien du Parlement, pour pouvoir voter, n'est-ce pas, un budget conséquent. Parce que vous voyez ici à Lubumbashi où nous sommes. Lorsque nous sommes en carence de denrées alimentaires, nos yeux sont fixés vers la Zambie. Et si la Zambie dit, nous, je ferme la frontière, nous sommes en pleurs. Tout le monde est en pleurs parce que il y a un sauveur qui n'est pas là. Alors, et pourtant, nous avons tout ce que nous avons comme terre. Même les piments, on exporte. Même tout, même les oranges. Mais qu'est-ce qui nous manque après tout dans ces pays pour
Merci.
Que nous puissions décoller? Moi,
Merci.
Je pense que le problème, c'est dans notre tête.
Merci.
Et lorsque nous aurons la conscience, la volonté. Merci.
Merci, Jérémy Mamba, depuis Lubumbashi. Franck, vous nous appelez depuis Vienne, en Autriche. Alors, bonjour, Franck.
Bonjour à vous tous au studio, mon cher frère Marcel, à tous les auditeurs de la Radio Capi et aussi, avec beaucoup de respect, nos cordiales salutations à son Excellence, Monsieur le Ministre du Commerce Extérieur, Julien Palou, qui est en ligne avec nous.
On vous écoute.
Oui, merci beaucoup. Je suis en train de vous suivre depuis le début. Je salue le décor que le ministre venait de nous planter. Et je vais réagir par rapport à ce qu'il a dit parce que pour expliquer d'abord les raisons qui bloquent le commerce extérieur chez nous, il a cité quatre éléments. Si je peux me le répéter, il a évoqué le cas de l'azarianisation, des pillages, des dictatures et aussi des guerres à répétition. Et à la question du premier intervenant, qu'est-ce qui bloque tout ça encore? Il a parlé des manques de banques du développement interne. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Nous vous savons scientifique. Dans la plupart des cas, quand vous intervenez dans des émissions à caractère pédagogique, vous ne cessez de vous distinguer par rapport à ce que vous dites et par rapport à ce que vous voulez dire. Merci beaucoup. Mais pour tout observateur averti qui essaie aussi de suivre la politique intégrale en République démocratique du Congo, en dehors de ces quatre éléments que vous avez évoqués, il y a des scientifiques comme vous qui seraient aussi étonnés de voir que vous avez omis quelques autres aspects très très importants que sont par exemple la mauvaise gouvernance de chez nous, le manque de suivi des activités étatiques, le manque de rigueur au niveau de la justice, bref, le système de complaisance. Puis, je crois que si on parle du commerce extérieur, on voit aussi d'une manière indirecte la marche intégrale de la politique nationale de ces pays, parce que le commerce extérieur ne peut bien tenir que si de l'intérieur la politique est en ordre. Mais avec ce que nous sommes en train de voir, comment on va seulement se cacher au pillage, à la dictature? C'est vrai, les pillages ont entraîné des conséquences. Mais monsieur le ministre, est-ce que ces pillages ne continuent pas jusqu'à présent? Vous allez nous dire quoi? On vous demande d'être franc et direct, comme vous l'avez toujours été. Quand nous, observateurs, analystes, suivons que à chaque trimestre, il y a des détournements de au moins 100 millions, 200 millions, et les détourneurs n'ont jamais été inquiétés. Les détourneurs circulent, pas seulement une fois, dans tous les circuits presque, il y a des détournements. Et malgré tout ce qui est dénoncé là, c'est comme si ceux qui détournent doivent être bénis, doivent être gratifiés. Et comment nous allons, 64 ans après, aller nous cacher encore à la zarianisation, alors que pour le moment, ce qui est en train d'être détourné, si on doit le requantifier, ça sera encore plus que ce que Mobutu avait hypothéqué vers ces années-là. Seulement avec l'actuel gouvernement de l'UDPS, si nous devons voir, nous devons lister tous les grands projets détournés. Est-ce que vraiment on peut encore aller se cacher derrière seulement la zarianisation, derrière la dictature? Mais quand vous parlez de la dictature, vous faites allusion à laquelle? À la dictature de Mobutu, mais Mobutu il est déjà parti depuis plus de 25 ans maintenant. Il n'est plus là. Maintenant, nous sommes dans un système démocratique tel qu'on nous le dit. Mais pourquoi ça ne marche pas? Moi, je crois que ce qui bloque, je m'excuse pour vous le dire de manière polie, mais en face, ce qui bloque, c'est la mauvaise gouvernance, le manque de vision politique, voilà, le manque de volonté
vous l'avez dit, Franck, vous le revenez sur ça, on a compris, on retient pour vous, en dehors de tout ce que le ministre a dégagé comme lorsqu'il a fait l'état des lieux concernant les problèmes qui sont posés pour développer les commerces extérieurs, en dehors de la organisation, de pillage, de la dictature et aussi de tout ce qui a comme agression de la RDC, vous avez évoqué pour vous la mauvaise gouvernance et le manque de rigueur en matière de la justice. Il va réagir par rapport à ça, le ministre, et je veux lire encore cette réaction sur la page Facebook par les auditeurs. C'est celle de Georges Kilangalanga. Les constats du potentiel économique de la RDC est bien réel, mais le problème est notre capacité de rendre ces potentialités en opportunités économiques réelles. Dans la logique des choses, les échanges économiques sont subordonnés à l'offre et à la demande. Il faut qu'il y ait équilibre entre l'offre et la demande. Pour renforcer les échanges commerciaux entre la RDC et les autres pays, il faut que la RDC commence par avoir de bonnes routes, mais aussi doit diversifier son économie en proposant aux autres des produits dont ils ont besoin. On a assez entendu de slogans, l'heure est à l'action. Les dirigeants doivent prendre conscience de ce que le Congo vit. Malgré ces nombreuses richesses. Et cette dernière réaction, c'est celle de José Depi Kinshasa. Ma question au ministre Julien Paluku est de savoir, lui qui a été gouverneur plus d'une fois, ministre actuellement, ministre du commerce extérieur, pourquoi tout ce qu'il nous dit est développé à longueur de journée dans les médias n'ont jamais connu de succès et jamais donné la paix et le bonheur, nous, peuple congolais, j'arrive pas à bien lire cette réaction de José Depi Kinshasa, mais je comprends qu'il veut parler de tout ce que le ministre dit souvent lorsqu'il passe dans les médias. Pourquoi cela ne se réalise pas? On va donc donner l'occasion au ministre Julien Paluku de réagir. Monsieur le ministre, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Je voudrais commencer par féliciter tous les intervenants. Je commence par Monsieur Franck qui a appelé de l'Autriche. Et bien évidemment, l'émission, lorsque on m'a communiqué le sujet, c'était pour dire quel est le décor que je pouvais planter depuis 64 ans. Donc si je suis revenu sur une page d'histoire, c'était pour donner les éléments explicatifs de ce qui s'était passé par le temps. Donc la zaïrianisation, comme il l'a cité, les dictatures, pillages, guerres et rébellions, c'est des faits historiques qui ont expliqué pourquoi notre économie a dégringolé. Donc jusqu'à ce stade-là, je n'ai pas eu tort de rappeler cette page d'histoire, parce que l'histoire éclaire le présent et prépare l'avenir. Mais maintenant, par rapport à ce qu'il a évoqué, les problèmes de gouvernance, les problèmes de rigueur, les problèmes de justice, c'est tout autant vrai que je ne peux pas m'y opposer. Les indices, depuis toutes ces années, démontrent qu'il y a des problèmes réels au niveau interne et que nous devons améliorer. Et c'est l'essence de toutes ces structures qui sont mises en place, des luttes contre la corruption, de l'amélioration du climat des affaires, pour tenter de trouver des réponses aux éléments qu'il a évoqués, qui sont des éléments qui complètent les quatre éléments que j'ai dit évoqués tout à l'heure. Les détournements, personne ne peut se satisfaire des détournements qui se passent ça et là. Et c'est la raison pour laquelle nous encourageons le ministère de la Justice à sévir, et sévir de la manière la plus forte, pour qu'on puisse stopper cette gabegie financière qui plombe effectivement le développement de la RDC. Lorsqu'on revient à ce que M. Jérémy de Lubumbashi a dit, effectivement, moi je crois que nous nous sommes trompés d'approche lorsque nous avons considéré le secteur minier comme devait être le levier du développement économique de la RDC, parce que les prix sont fixés à l'extérieur. Vous vous rappelez qu'il y a eu un moment donné où la tonne du cobalt était à 100 000 $, hein, la tonne du cobalt. Aujourd'hui, la tonne du cobalt est à près de 26 000 $. Donc ça dépend des off-takers, c'est-à-dire les acheteurs finaux. Quand ils veulent, ils baissent. Quand ils veulent, ils montent. Mais s'agissant des produits agricoles, et c'est là ma thèse, personne ne peut s'abstenir de manger chaque jour. Donc si on devait prendre les dividendes du secteur minier, réinverser dans le secteur agricole, eh bien, on va trouver des réponses à la misère du peuple congolais. Je suis heureux qu'on ait créé ce qu'on appelle les fonds miniers des générations futures, c'est-à-dire une redevance qu'on prend sur le secteur minier qui doit préparer les générations futures à faire face aux problèmes d'avenir. Et moi, je crois que les conseils que je donne régulièrement, c'est que les fonds miniers des générations futures ne soient pas thésaurisés dans les banques, mais soient utilisés effectivement dans les secteurs productifs qui ont des effets multiplicateurs sur notre économie. Alors, Julien Paluku, vous dites des choses, mais vous ne faites, on ne voit pratiquement rien.
C'est des slogans creux d'après cet auditeur-là, oui. Il dit que c'est des slogans creux qui ne se réalisent pas sur le terrain.
C'est des slogans, mais je l'invite à aller au Nord Kivu, voir ce que j'ai pu réaliser quand j'étais gouverneur. Je l'invite à visiter ce que j'ai pu faire comme ministre de l'Industrie. Je peux vous dire qu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes le seul pays maintenant, aujourd'hui, capable de transformer le cuivre en câbles électriques. S'il veut avoir des câbles électriques, il ne va plus les importer de l'extérieur. Je l'invite à passer à Maluku, il va voir que nous produisons les carreaux et les faïences à grande quantité. Ça réduit la facture d'importation de la RDC à des milliers et des millions de dollars chaque année. Je l'invite à passer dans tous les secteurs où nous avons fait la promotion des usines de production des emballages à gauche, à droite, pour que finalement la RDC retrouve petit à petit sa voie vers l'émergence. Je l'invite à visiter désormais la préparation de la zone économique spéciale à Kisiche et à Kolwezi, où les premières usines de fabrication de précurseurs de batteries seront installées pour transformer notre cobalt, notre lithium, notre nickel et notre manganèse dans la province de Lualaba.
Voilà, c'est pour dire que c'est pas des slogans creux, il y a des choses qui se sont effectivement réalisées sur le terrain. Cette dernière question, monsieur le ministre, en 30 secondes, votre vision à ce ministère porte sur la valorisation des exportations de la RDC. Est-ce qu'on peut avoir une idée rapidement sur quels produits essentiellement?
La vision que nous avons, c'est d'élever la part du volume des exportations de la RDC sur le commerce mondial à 1%. Parce que nous sommes à 0,0001%. Nous voulons passer à 1% seulement sur les produits prioritaires. En dehors des produits miniers, j'ai dit que nous avons 62 filières que nous avons ciblées. Il est peut-être difficile de les citer. Je vais organiser une grande conférence pour des filières que nous avons identifiées comme des produits qui doivent faire l'objet d'une stratégie de la RDC. Parce que les marchés existent à travers le monde et nous devons davantage nous délester du secteur minier. Parce que le seul secteur agricole, si nous y investissons, nous allons promouvoir les exportations et nous allons faire exploser notre budget à 100, 200 milliards. Et ce n'est pas un discours vague. Eh bien, il s'agit de consulter notre stratégie de la promotion des exportations. Ceux qui veulent en savoir plus, ils peuvent nous contacter au ministère. Nous allons échanger davantage. Je suis d'avis que je ne suis pas le seul détenteur du monopole des connaissances. J'accepterai volontiers tous les éléments critiques qui vont m'amener à réussir ma mission à la tête de ce ministère.
Voilà, on est déjà à la fin de ce magazine. Par aux auditeurs, nous disons nos excuses à Peter Maboudi. On ne peut pas l'avoir, on est à la fin. Nous disons plutôt merci au ministre Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur, qui a accepté de participer à cette émission. Nous espérons que prochainement, il pourra être avec nous dans ces studios. Monsieur le ministre, nous vous disons merci.
Merci beaucoup et merci à tous les auditeurs et toute ma compassion à la population du Kanyabayonga et du Nord Kivu en général.
Merci. Fin de ce numéro de Parole aux auditeurs de ces jours. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Debs Vita qui est à la mise en onde, à Bleshindani et Julie Feza Bongonda qui l'ont réalisé et coordonné au micro. C'était Marcel Ngomombala. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro de votre magazine d'échange citoyen Parole aux auditeurs. D'ici là, bon suivi de programme sur la fréquence de la paix. Au revoir à toutes et à tous.